L'interview Maïmo, Corentin Brabant sur Radio Immo.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'interview, émission produite par Maïmo. Alors le concept est simple, chaque mois nous recevons ou nous allons à la rencontre d'un dirigeant d'une entreprise qui innove et se réinvente au quotidien. Et pour ce nouveau numéro de l'interview, nous avons le plaisir d'être accueillis par les équipes d'EDF puisque nous recevons Pierre Bouvier qui nous accueille dans ses locaux à Lille. Alors Pierre, tu es chargé de mission grand projet groupe et rénovation énergétique chez EDF. Bonjour, comment vas-tu ?
Eh bien très bien, merci.
Eh bien merci en tout cas de nous accueillir dans tes locaux et d'avoir accepté de nous parler un petit peu plus d'EDF. Alors Pierre, bien sûr, on va parler d'EDF, de tes missions et de comment vos métiers évoluent au sein de la grande maison. Mais avant, j'aimerais qu'on refasse un petit peu ton parcours pour mieux te connaître. Alors tu as fait tes études dans le Nord. Est-ce que tu es un pur ch'ti ? Ça, j'avais pas forcément l'information.
Alors pas du tout. Suis né à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques et j'ai grandi en région parisienne.
D'accord, mais tu es quand même devenu ch'ti de cœur puisque tu as été ingénieur chez HEI, hein, grande école d'ingénieurs du Nord. C'est pour ça que du coup tu es retourné un peu chercher de soleil pour faire ton DESS en management stratégie à Aix-en-Provence, j'imagine. Mais tu intègres EDF en 94 en tant qu'ingénieur sûreté pendant 4 ans, puis tu deviens chef de section performance pendant 2 ans, enfin chef de service système d'information en CNPE pendant 4 ans, puis chef de projet maintenant logistique nucléaire. Tu es ensuite devenu délégué d'une agence IT pendant 6 ans. Ensuite, tu bascules là chez Enedis pendant plus de 11 ans où tu as participé notamment au déploiement de Linky. Pour résumer, hein, parce qu'on ne résume pas en 11 ans juste en déploiement Linky. Et tu es revenu par contre chez EDF il y a un an en tant que chargé de mission grand projet industriel et rénovation énergétique. Alors, première question, ça va être très facile. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu retiens de ces 30 ans à peu près, c'est ça, de parcours avec toutes ces diversités ? Parce que quand on passe du nucléaire à d'autres entités, on a envie de comprendre un petit peu pourquoi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu retiens ?
Oui, alors la présentation est assez fidèle. Hein. Tu l'auras noté, j'aime bien comprendre comment vont les choses de bout en bout. Et donc, à ce titre, j'ai un parcours plutôt atypique dans le groupe EDF, puisque j'ai débuté par la sûreté nucléaire, c'est-à-dire vraiment le cœur du cœur de la centrale qui produit l'électricité. Et de fil en aiguille, j'ai touché à peu près tous les maillons de la chaîne jusqu'à la distribution de l'électricité chez les clients et chez les industriels, puisque tu as parlé de mon passage chez Enedis et du déploiement des compteurs Linky. Et puis ensuite, j'ai été directeur client chez Enedis, donc on adressait tous les segments qui peuvent recevoir de l'électricité, et quel que soit le fournisseur. C'est-à-dire qu'en plus de voir tous les maillons de la chaîne dans le groupe EDF, ça m'a aussi permis d'appréhender une bonne partie des acteurs de la fourniture et distribution d'électricité. Donc c'est pour ça que tu me retrouves maintenant dans une direction à l'action régionale, qui a une particularité d'être une petite entité, il en existe dans chaque région, qui adresse tous les métiers du groupe, qui en a une vision synthétique et qui permet d'être une sorte d'ambassade du groupe EDF ou de préfecture du groupe EDF en région, qui permet aux acteurs du territoire, aux institutionnels, d'avoir une porte d'entrée pour n'importe quelle question qui touche au sujet de l'électricité et des actions du groupe EDF en région.
Et alors tout ce parcours que tu as eu au sein d'EDF, c'est justement une chance, j'imagine, dans un groupe comme celui-ci, de pouvoir avoir des passerelles et de pouvoir oser explorer tous les différents métiers autour de l'énergie. C'est encouragé justement par l'entreprise.
Alors c'est rendu possible par l'entreprise, puisque ce genre de parcours a des avantages et des inconvénients, hein, c'est-à-dire qu'on ne devient pas archi-expert dans un domaine. Par contre, il faut des gens, et la direction à l'action régionale en est la preuve, qui sont à peu près capables de comprendre les problématiques de n'importe quelle activité du groupe. Alors moi, j'y encourage et l'entreprise le rend possible. Ça, c'est l'avantage d'une entreprise comme la nôtre. Moi, je l'encourage parce que, évidemment, c'est passionnant de comprendre tous les tenants aboutissants de la problématique très technique, très industrielle, très centrée sur le process, mais aussi, et ça c'était une aspiration personnelle hein, que j'ai développée dans ma formation, tu parlais du master après l'école d'ingénieur, comprendre que le process industriel débouche quand même sur une réponse à un besoin sociétal ou client, fait qu'on a envie aussi d'aller voir jusque chez le client comment ça se passe. Et ça, l'entreprise le rend possible. Donc, c'est une vraie opportunité sur laquelle j'ai surfé pour répondre à ta question.
Et vous ouvrez notamment, hein, tu parles de comprendre un peu les clients, d'aller voir les clients. Et justement, hein, puisqu'on est sur Radio Immo, on va parler aussi un petit peu d'immobilier, puisque vous faites partie de MyImmo, qui est le premier pôle d'innovation technologique et sociale de l'immobilier. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de MyImmo et qu'est-ce que vous êtes venu chercher à travers ce groupement des acteurs de l'immobilier ?
Alors, tout d'abord, ça a été une de mes surprises quand j'ai intégré la direction à l'action régionale, c'est que je pensais avoir à peu près une vision globale de ce que faisait l'entreprise. Et j'ai découvert que l'entreprise s'intéressait aussi de près à l'immobilier. Et au-delà de ça, j'ai découvert qu'il y avait au sein de la recherche et développement du groupe EDF toute une équipe spécialisée dans les sujets liés à l'énergie du bâtiment, à la performance thermique, à la performance des matériaux, aux méthodes de rénovation, ce qui, a priori, vu de loin, ne semble pas être notre cœur de métier. Et c'est ce qui fait le sens de notre présence sur le domaine de l'immobilier, puisque finalement, on est un grand acteur national de l'énergie. On est quand même une entreprise qui est redevenue complètement publique. Et on peut considérer qu'on a du coup un rôle sociétal à jouer sur ce plan-là, surtout fort d'une recherche et développement, comme je disais, dont j'ai découvert la maîtrise et l'expertise sur ces domaines-là. Et alors, on a finalement un certain nombre de filiales qui rendent un certain nombre de services, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises, dans les sujets de décarbonation, de bilan thermique des parcs logements, dans les propositions de valeur que sont la constitution de programmes de rénovation optimisés. Et tout ça s'appuie sur notre expertise dans un objectif qui est une des priorités du groupe, qui est la décarbonation, dont on comprend bien évidemment l'intérêt pour, alors j'allais dire pour le pays, mais bien plus, c'est-à-dire pour la planète. Aujourd'hui, il existe des solutions pour répondre aux besoins thermiques, que ce soit dans l'industrie, mais aussi dans le logement, qui permettent d'utiliser des énergies décarbonées, puisqu'on a la chance en France, et évidemment c'est une des valeurs fortes de notre entreprise, d'avoir une énergie décarbonée à 95%.
Tu peux nous parler, excuse-moi, je me permets, tu peux nous parler un peu de ces solutions justement que vous pouvez mettre en place ou accompagner pour les acteurs du logement, pour l'immobilier d'une manière globale ?
Alors, on a différents champs d'action. On a, alors je vais commencer par celui-là parce qu'il est un peu à part, c'est le champ de la mobilité électrique. Mais ça rejoint la problématique de l'immobilier parce que qui dit mobilité électrique dit enjeu d'infrastructures de recharge de véhicules électriques, qui est parfois un vrai sujet pour les, que ce soit pour les bailleurs ou pour les promoteurs qui essayent de les intégrer dès la conception. Donc on a une filiale qui est spécialisée dans les solutions de bornes de recharge et qui peut adresser donc promoteurs, bailleurs.
Dans le logement ancien aussi, j'imagine, parce que dans le neuf, c'est plus facile à mettre en place, mais dans le logement ancien, ils sont...
Bien sûr, puisqu'après, vous pouvez avoir des logements collectifs qui cherchent à s'équiper. Alors il existe plusieurs solutions et ça se traite avec l'opérateur du réseau de distribution, hein, ce qu'on appelle des colonnes horizontales où l'énergie arrive soit jusqu'à la place de parking, soit jusqu'au bâtiment. Mais derrière, il y a un moment donné, il faut un opérateur qui transforme l'énergie qui arrive en borne de recharge avec son système de gestion de la puissance, de la facturation, etc. Là, il y a plusieurs solutions, mais c'est tout à fait, évidemment, compatible avec l'ancien, et heureusement, parce qu'il ne serait pas entendable de dire que si vous habitez un logement ancien, vous n'aurez jamais accès aux facilités, aux infrastructures de recharge véhicule électrique.
Exactement. Donc, on a le premier sujet, mobilité, sur lequel vous pouvez accompagner.
Sur lequel on peut accompagner. Après, on a maintenant, fort de la recherche et développement dont je parlais tout à l'heure, on a plusieurs services au sein du groupe, mais qui ont des angles d'approche légèrement différents, mais qui ont la même finalité, qui proposent des études de décarbonation. Bilan thermique, proposition de programme de rénovation qui peut aboutir à des structurations des appels d'offres à venir. Et on en parlera tout à l'heure, mais ça a donné lieu à un programme et un projet spécifique en Hauts-de-France qui est né de Maïmo, donc qui fait le lien avec ce qu'on apporte ou ce que nous apporte Maïmo, hein, puisque c'est à double sens.
Mais c'est né, juste, hein, faut rendre à César ce qui est à César, c'est né aussi des travaux que vous aviez faits avec un bailleur social, SIA Habitat en l'occurrence, qui également est partenaire où vous aviez été très proactif. Quand tu parles justement de ces programmes de rénovation, j'imagine que ça vient de là, sur comment vous pouvez aussi accompagner des acteurs de l'immobilier comme des bailleurs sociaux sur des gros programmes de rénovation. Et je pense que la genèse, elle est venue de là aussi, sur on a besoin d'être à plusieurs pour anticiper sur ces gros projets de rénovation, et encore plus avec toute la chaîne de valeur des acteurs de l'immobilier. Hein.
Alors tout à fait, parce que pour répondre à puisque on en parle, hein, on parle du projet Rénosphère qui est né essentiellement de chez Maïmo. On est parti de la réponse aux besoins de bailleurs sociaux, donc SIA Habitat effectivement est partenaire, est toujours partenaire, hein, sur le sujet. Mais justement, grâce à la richesse des partenaires, qui, par exemple, qu'on peut rencontrer dans Maïmo, ça nous a permis d'aller bien plus loin que la simple réponse à un besoin des bailleurs qui se structurent nationalement, hein, chez EDF, en une offre commerciale ou technique et commerciale d'analyse du bâti et de proposition de rénovation optimisée. On est allé bien plus loin dans ce projet régional avec Maïmo, puisque on vise à capitaliser toutes les contributions des différents bailleurs qui pourraient s'intéresser à cette démarche pour structurer la filière métier à l'échelle de la région. Et là, on commence à parler notamment aux acteurs du BTP, qui sont les faiseurs, et qui sont intéressés d'avoir une vision long terme des besoins à peu près globalisés des différents bailleurs sociaux, mais aussi à des acteurs privés, hein, parce que la méthode, finalement, peut se décliner à l'échelle des acteurs privés.
Oui, et puis des acteurs publics aussi, des collectivités, en fait, parce que l'idée, c'est effectivement tous les enjeux qu'il va y avoir sur la rénovation énergétique sur tout un secteur peuvent être adressés les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, les collectivités qui vont avoir des bâtiments à rénover. Hein. Et puis, juste pour repréciser pour nos auditeurs, le cœur de Rénosphère, c'est d'anticiper quels vont être les besoins en isolant, en méthodologie, en objets connectés pour piloter l'énergie derrière, hein, j'en passe.
Oui, et puis si je peux me permettre, même plus directement et plus basiquement, est-ce que dans 5 ans, on aura plutôt besoin de menuisiers parce que on va remplacer massivement des fenêtres ? Est-ce qu'on aura besoin de maçons ? Est-ce qu'on aura plutôt besoin de plaquistes ? Est-ce qu'on aura plutôt besoin de couvreurs ? Et ça, aujourd'hui, les fédérations sont assez demandeuses d'avoir cette vision-là, parce que pour réussir les ambitieux programmes de rénovation, parce que notre région a quand même des enjeux particuliers de par son histoire, de par le taux de passoire thermique, etc. Pour réussir, il faut que tout soit aligné, c'est-à-dire la demande et les moyens que les bailleurs peuvent mettre sur la table. Mais aussi l'offre de services et de compétences des professionnels du bâtiment qui pourraient se retrouver, et on pourrait se retrouver collectivement dans une impasse si finalement la ressource ne correspondait pas aux besoins. Parce que personne n'a anticipé que, pour reprendre l'exemple que je citais tout à l'heure, que dans 5 ans, c'est des menuisiers dont on va avoir besoin, ou inversement, des maçons, des plaquistes ou des couvreurs, et qu'on n'est pas au rendez-vous. Et même si je vais plus loin, et c'est aussi ce qu'on attend et ce que peut apporter cette méthode, hein, innovante qui est issue à la base de Maïmo, c'est de se dire, si en plus on n'a pas une vision coordonnée du besoin des différents bailleurs. On pourrait se retrouver bêtement à ce que plusieurs bailleurs dans un même secteur de la région prévoient le même type de travaux la même année. Et donc se retrouver avec une pénurie de compétences, par exemple dans le bassin minier, parce que tout le monde fait de la rénovation dans le bassin minier la même année, alors que sur le littoral, vous avez des entreprises disponibles qui disent « moi je sais faire, moi c'est dommage, le business il était plutôt l'année dernière ou l'année prochaine ». Et soit je fais déplacer du personnel, ce qui, au global, n'optimise pas du tout le coût de l'affaire. Soit on coordonne tout ça et finalement, on fait travailler tout le monde au bon moment, au bon endroit. Et là, on réussit l'optimisation de la rénovation. Donc voilà ce que EDF a trouvé avec les partenaires de Maïmo dans ces espèces d'incubateurs d'innovation dans lesquels on travaille sur la base d'une thématique donnée au départ et puis qui finalement nous fait avancer sur la réponse à un vrai besoin.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on pense parler uniquement d'énergie, certes de décarbonation, mais on oublie de parler des besoins des artisans, des menuisiers. Donc la passerelle, elle est peut-être énorme, mais elle est vitale pour coordonner tous les acteurs, parce que tous les métiers vont être impactés par ces enjeux autour de la décarbonation, et mieux vaut l'anticiper à plusieurs.
Typiquement une illustration, pour prendre un exemple parlant, on sent bien qu'en matière de carbonation et de rendement, il y a une solution technologique qui s'impose depuis des années, qui est la pompe à chaleur. Mais la pompe à chaleur, ça nécessite des compétences, que ce soit pour le montage, mais aussi pour la maintenance, l'entretien, le recyclage, le cycle de vie du produit, puisque ça fait partie des choses auxquelles on s'intéresse, évidemment, dans une perspective RSE et de développement durable. Il s'agit pas non plus de faire de la rénovation one shot dont le coût écologique finalement sur le long terme ne serait pas satisfaisant. Et ça, c'est des compétences, ça se structure. Et une fois qu'on a donné cette visibilité-là, on a aussi des partenariats au sein d'EDF assez forts avec le monde de l'éducation. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Et donc, on a des lieux pour éclairer, orienter, co-construire les filières métiers dont on a besoin demain. Je prenais l'exemple de la pompe à chaleur, mais c'est vrai aussi dans tous les domaines de la construction.
Et d'ailleurs, il y a également un autre sujet sur lequel vous réfléchissez avec les acteurs de Maïmo. J'ai cru comprendre que vous travaillez sur comment est-ce qu'un quartier va devoir s'adapter aux enjeux climatiques. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler aussi du rôle que EDF a dedans? Je sais que vous travaillez avec Rabot du Tilleul, je crois qu'il y a SIA, il y a Sergic, il y a Sada Assurance aussi, où vous vous posez la question, entre acteurs privés et publics, comment est-ce que un quartier va devoir s'adapter aux enjeux climatiques? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet?
Oui, alors c'est très intéressant ce cas d'école sur lequel on travaille, puisque on est dans la prospective. Et j'avoue qu'au départ, on s'est un peu posé la question côté EDF de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et finalement, qu'est-ce qu'on va apporter et qu'est-ce qu'on va y apprendre? Et puis, de fil en aiguille, c'est très intéressant quand on commence à toucher du doigt les problématiques concrètes, en se disant, par exemple, tiens, un quartier urbain en 2050, avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement global du climat, hein, parce qu'on parle de réchauffement, mais c'est pas que le réchauffement. Comment on s'y adapte? Est-ce que ça nous impacte? Et donc, on est rentré très concrètement avec ses partenaires sous tous les angles, le bâti, l'assurance, etc. Et puis l'énergie, et on s'est aperçu qu'on avait pas mal de choses à apporter, tant dans les solutions énergétiques que dans la résilience des infrastructures qu'on mettait en place. Parce que ça réinterroge aussi nos objectifs de décarbonation et comment on va y arriver. Et par exemple, sur ce quartier, évidemment, on s'oriente vers une solarisation forte dans notre imaginaire, hein, puisqu'on est sur un cas d'école. Mais qui dit solarisation dit échange d'énergie, dit infrastructures comme on les fait aujourd'hui, mais qui doivent résister à des conditions extrêmes, c'est-à-dire Par exemple, des chaleurs très fortes l'été, qui, on le sait, parfois fragilisent les réseaux souterrains. Mais inversement, des coups de vent, des inondations, qui peuvent aussi remettre en cause la façon dont on conçoit les raccordements. Mais aussi qui réinterroge la résistance des panneaux solaires, hein, qui peut-être, on l'a vu dans le sud-ouest récemment, devront recevoir des grêlons de 5 à 10 cm sur le coin de l'œil sans être altérés pour autant.
C'est là où c'est intéressant, effectivement, ça me fait penser à ça, la diversité des acteurs, d'être avoir aussi un assureur spécialisé dans l'immobilier, en l'occurrence Sada Assurance, qui va aussi permettre de mettre en avant, attention, par rapport aux enjeux climatiques, effectivement l'impact, comme tu le disais, des grêlons mais aussi des inondations, va avoir un impact sur le quartier, donc il va falloir anticiper ces impacts dans la façon de transformer le quartier, j'imagine. J'imagine que ça donne des ouvertures beaucoup plus larges que si chaque entreprise le réfléchissait dans son coin.
Exactement, parce que ce que j'oublie de dire, c'est que indépendamment de cette réflexion qu'on a avec Maïmo, on a chez EDF et aussi chez les opérateurs de réseau des structures qui réfléchissent à comment anticiper la résilience dont on a besoin demain. Mais là, c'est vrai qu'on le touche du doigt avec vraiment une vision pluridisciplinaire. Et c'est intéressant, je pense, au cas des assureurs, qui ne sont pas des gens avec qui on aurait spontanément travaillé, et qui vont nous dire, attention, si demain, les produits qui sont déployés ne résistent pas aux intempéries, forcément, on va devoir réadapter notre modèle économique, parce que si vous voulez qu'on vous assure, il faut revoir le risque, il faut revoir les conséquences et donc revoir les prix. Après, les acteurs de l'immobilier, comme nous, hein, se disent, mais nous, demain, on ne travaillera plus dans les mêmes conditions. S'il faut faire des travaux d'entretien, peut-être qu'il y a 3 mois dans l'année où ce ne sera même pas possible, parce qu'il fera trop chaud ou parce qu'il fera trop humide. On sait que les chantiers BTP, par exemple, sont extrêmement pénalisés par les fortes pluies, parce qu'au bout d'un moment, ils sont impraticables.
Ou les fortes chaleurs, on l'a même vu la semaine dernière. Alors,
les fortes chaleurs, c'est assez implicite, parce que ça revient chaque année, mais... Moi, j'ai découvert dans les échanges au sein de Maïmo que les fortes pluies étaient un vrai sujet aussi, puisqu'un chantier qui est dans 20 cm d'eau pendant 3 mois, c'est une vraie catastrophe en termes de planning, et c'est des choses qui se produiront peut-être de plus en plus. Mais du coup, ça alimente aussi notre réflexion, parce que nous aussi, on a des chantiers où on peut avoir des chantiers qui ressemblent à ceux des BTPistes, où on ouvre des routes, où on construit des ouvrages, et finalement, on va avoir des problématiques communes. Et donc, on se nourrit respectivement entre acteurs de ces problématiques-là.
Alors, t'as parlé beaucoup de solarisation. Est-ce qu'il y a d'autres pistes d'adaptation qui émergent aussi côté EDF, hein, qui vont avoir un impact, ou des sujets que tu vas devoir ouvrir chez EDF suite à ces réflexions que vous avez en tracteur?
On a parlé solarisation, mais on peut aussi parler climatisation. Je parlais des pompes à chaleur tout à l'heure. Hein. Les pompes à chaleur, elles méritent de pouvoir faire du chaud l'hiver, mais aussi du froid l'été en fonction de la nature des appareils. Mais on peut s'interroger sur la façon d'adapter intelligemment à la fois leur déploiement, leur intégration esthétique, mais aussi leur résistance aux intempéries diverses et variées. Donc ça fait partie des petites idées qu'on se met dans un coin de la tête et auxquelles on n'avait pas pensé forcément naturellement au départ. Ça me fait faire le lien avec une autre activité qu'on a au sein de Maïmo. Je vais vous expliquer pourquoi je fais le lien, hein. Je pense aux Startup Days, ouais. Où on voit des entreprises innovantes qui viennent avec des idées qui peuvent paraître saugrenues au départ, mais qui sont assez intéressantes à creuser ou pas. Et qui peuvent être des réponses à ces problématiques-là. Alors, je pense à une entreprise qui propose des systèmes de climatisation adiabatique qui permettent de ne pas avoir d'échangeurs extérieurs, mais d'utiliser les conduits de cheminée quand ils existent et d'utiliser des phénomènes physiques assez naturels pour produire du frais. Je pense à ceux qui nous ont proposé de faire de la récupération des eaux usées qui généralement sont
des eaux grises, hein, c'est ça en...
Alors, il n'y a pas que les eaux grises, mais j'avais noté l'idée intéressante du fait que nos eaux usées sont souvent des eaux chaudes. C'est-à-dire, par exemple, votre lave-linge, quand il vidange, Parfois, il envoie à l'égout de l'eau à 50 degrés. Si vous récupérez ces 50 degrés pour alimenter votre chauffage avant de l'envoyer à l'égout, tout le monde est gagnant, vous décarbonez, vous faites des économies d'énergie. Et voilà, ce sont des... Et du coup, dans les cas d'école comme celui dont on parlait, hein, rénovation d'un quartier, on peut se nourrir de toutes ces idées qui nous sont apportées par ces startups innovantes qu'on rencontre dans le cadre de Maïmo. Et la boucle est bouclée parce que en imaginant des choses qui peuvent être saugrenues, en les mettant en perspective sur un projet à grande échelle, elles peuvent être moins saugrenues, elles peuvent commencer à devenir un business model pour ces entreprises qu'on peut choisir d'accompagner. Et la boucle est bouclée.
Comme quoi, la coordination entre tous les acteurs de grande taille, de petite taille, de start-up, à mon sens, de ce qu'on vient de dire, est vitale et je pense va permettre de répondre aux enjeux auxquels les entreprises vont faire face dans les années à venir. Un grand merci, en tout cas, Pierre, on arrive au terme de cette émission, hein, de nous avoir reçus dans tes locaux. Je rappelle, hein, Pierre, que tu es chargé de mission, grand projet, groupe et rénovation énergétique chez EDF. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de l'interview, une émission qui est désormais disponible en podcast sur notre site, sur nos applications et sur tous vos agrégateurs de podcasts. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Bonne journée, à bientôt.
L'interview Maïmo, Corentin Brabant sur Radio Immo.